entreprendre.
Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Fort et Relu à l'Elysée sur Radio 103, 102.3 FM et 95.9 MHz sur Radio Plaisance en Périgord Noir.
Bonjour à toutes et à tous, Fort et Relu à l'Elysée, dans notre série sur les violences policières, on a fait une émission le 10 mars qui s'appelait Justice pour Hakim avec Walid du comité Vérité et Justice pour Hakim Hajimi. Aujourd'hui, on va diffuser l'intervention de Pierre Thévanian, qui est philosophe et qui anime le site « Les mots sont importants ». Intervention lors de la rencontre « Violence policière, dérive judiciaire » organisée par le comité Vérité et Justice pour Hakim Hajimi le 5 février 2011 à Nice.
Omerta dans la police, voilà, comme point de, quand je me suis posé la question de d'où partir sur cette question, je suis parti du titre « Omerta dans la police » en disant... J'allais parler de l'omerta dans la police, POLIS, c'est-à-dire en grec ancien, la cité, la communauté politique, parce que, voilà, s'il y a cette omerta dans la police, on ne peut pas la dissocier d'une omerta beaucoup plus large, dans un espace beaucoup plus large que celui de la profession policière, et que l'omerta dans la police ICE ne tient que parce qu'il y a une omerta dans la police, dans la cité, dans la communauté politique, dans le monde politique. Et donc ma question, c'est qu'est-ce qui fait que certaines questions, comme celle justement, notamment, et par excellence, des crimes policiers, et double question, celle des crimes policiers et de leur impunité, qui est une question qui concerne la police et une question qui concerne la justice, mais elle se redouble aussi par une question beaucoup plus large qui concerne l'ensemble du débat public, de la classe politique, du monde médiatique, de tout ce qui fait exister ce qu'on appelle un espace public, un espace de débat, de délibération. Qu'est-ce qui fait que dans le débat public, donc, certaines questions n'ont pas de droit de cité, justement, hein, omerta dans la police, donc, dans ce sens-là. Et puisqu'omerta, j'en ai déjà parlé tout à l'heure un petit peu, le mot me paraît intéressant, d'une part parce qu'effectivement il permet de penser comment des actes, des agissements peuvent être minoritaires si on s'en tient à un point de vue strictement numérique, mais dominants au sens où ils donnent le « là » et où ils ne sont pas contestés et où ils sont l'essentiel du fonctionnement d'une institution. Et puis d'autre part, omerta donc, a aussi cet intérêt qui pose de manière directe la question de la parole et du silence, puisque c'est autour de ça, la question de la parole, de la circulation de la parole, du discours qui se tient ou qui ne se tient pas sur cette question, que je vais un petit peu tourner. Donc ma question c'est celle-là, c'est qu'est-ce qui fait donc qu'il y a omerta, pas seulement chez la police, les flics, mais chez la police IS dans le monde politique, hein, dans les espaces les plus officiels et les plus dominants là aussi de ce qui sont censés être nos espaces démocratiques, donc les partis, les organisations, les associations, les médias, les grands médias, évidemment. Sachant qu'il y a évidemment des nuances, hein, mais que globalement quand même, il y a une espèce de mur du silence que, évidemment, les comités vérité-justice fissurent et arrivent, Dieu merci, parfois à fissurer, mais qui, à peine fissurés, sont recolmatés. Enfin voilà, c'est un espèce de combat de comme ça, sans fin. Et qu'est-ce qui fait que, malgré tout, il y a ce mur qui tient et qui est sans cesse recolmaté? Donc quels sont un petit peu les obstacles qu'on a quand on veut faire émerger cette question politique majeure, parce que c'est une question politique majeure, pour ce qu'elle est, parce qu'elle est pas, elle est à l'évidence une question politique, mais cette évidence n'est pas évidente pour grand monde. Donc qu'est-ce qui fait, justement, je pourrais reformuler la question comme ça aussi, qu'est-ce qui fait que des évidences n'en sont pas? Qu'est-ce qui fait que, par exemple, les consciences morales et les intelligences sont endormies à ce point qu'on ne voit pas, qu'on ne sente pas comme une évidence le fait qu'un jeune de 20 ans soit tué est un scandale absolu. Et que ça ne fasse pas la une du 20h, mais que ça fasse effectivement 4 lignes dans la page des faits divers. Première question, voilà. Première évidence que naïvement, et j'assume cette naïveté, mais en tout cas c'est de cette naïveté-là que je partirais, de cette interrogation-là. Qu'est-ce qui fait aussi, a fortiori, que ce n'est pas non plus une évidence qu'un gardien de la paix tue? Voilà, hein, qu'un gardien de la paix, que celui qui est justement censé sauver des vies, prenne des vies. Voilà. Alors, ma réponse, enfin, une des manières de répondre, c'est évidemment pas la seule, mais pour ce qui est de cette omerta, la question de l'omerta, c'est justement ce que j'appelle une certaine économie de la parole, une certaine manière dont se prononce ou se prononce pas des paroles sur cette question. Donc la parole, parce que, tout simplement, pour le dire simplement, il me semble que c'est justement par des paroles qu'on endort les consciences et qu'on endort les intelligences, en parlant d'une certaine manière, en laissant parler certains et pas d'autres, et en parlant de certaines choses et pas d'autres, et en parlant de ces choses d'une certaine manière et pas d'une autre, ça sera un petit peu mes trois axes, qu'on endort les consciences. Alors justement, ça me permet de préciser aussi à quel titre j'interviens. Mais ce qui me permettra aussi de dire, parce que j'ai pas, voilà, je suis professeur de philosophie, je l'ai dit tout à l'heure en lycée, quand Paul me demandait est-ce que de préciser si ça a un lien avec mon engagement, je dirais pas vraiment, si ce n'est que les élèves à qui j'enseigne dans mon lycée ont l'âge et l'origine de ceux qui se font tuer généralement par des policiers. Dieu merci, c'est pas arrivé jusqu'à présent à un des élèves. Mais je vois pas d'autres rapport vraiment direct, si ce n'est aussi que le fait de les côtoyer comme élèves dans une interaction, alors qu'il y a aussi qui n'est pas exemple là aussi de tension et de rapport de pouvoir, hein, mais en tout cas me permet de voir cette évidence là aussi qui n'en est pas une, qui est que qu'on a affaire à des êtres humains tout simplement singuliers, qui méritent de vivre, et que effectivement c'est ce processus là de déshumanisation qui permet de produire l'espèce d'indifférence, de chape d'indifférence que provoquent des événements comme des homicides policiers. Donc je ne suis pas vraiment spécialiste de au même titre que soit des acteurs qui ont vu de l'intérieur, soit des chercheurs qui ont enquêté de très près sur la question. Mais par contre, si je devais essayer de me demander de quoi je suis spécialiste, de pas grand-chose, de ma discipline, la philo, mais aussi, d'une certaine manière, c'est un peu mon engagement depuis une quinzaine d'années, justement de la parole, des médias, du débat public, de l'analyse, donc je participe à un site qui s'appelle « Les mots sont importants », et c'est un petit peu là-dessus que, entre guillemets, je me suis spécialisé, au sens où ça me préoccupe beaucoup, ça m'intéresse beaucoup, et il me semble que c'est un lieu de pouvoir, un lieu de production et de diffusion d'idéologie, et que c'est donc un des lieux sur lesquels on doit agir un petit peu si on veut casser justement cette espèce de mur d'indifférence et d'omerta sur la question des crimes policiers. Donc la question du débat public, de l'organisation du débat public, des mots qui sont employés. Et c'est un petit peu pour ce travail que j'ai été invité d'ailleurs, hein, le travail donc sur ce site, soit par le biais de publication de livres, soit de ce site où on a essayé au maximum justement de casser un petit peu, donc d'élargir autant que possible aussi les brèches dont je parlais tout à l'heure, par de la contre-information, de la contre-culture, de la réflexion critique, par toutes sortes de choses que je préciserai peut-être tout à l'heure. Donc l'idée que les mots sont importants, je la déclinerai en trois questions. C'est-à-dire il n'y a pas que les mots, le choix des mots qui est important, c'est-à-dire il n'y a pas que la question comment on parle, mais également de quoi on parle et qui parle. J'annonçais ces trois points. Parce que la question qui parle pose d'emblée une autre question qui est qui ne parle pas. Il y a ceux qui ont droit à la parole, ceux qu'on écoute, ceux qui ont du crédit et ceux à qui on ne donne pas la parole. Il y a la question de quoi on parle, parce qu'évidemment, avant de savoir si on parle bien ou mal de tel événement, de telle affaire, de tel crime policier, encore faudrait-il déjà qu'on en parle. Et parfois la question c'est tout simplement on n'en parle pas, ou presque pas. Donc une question purement quantitative, mais qui a son importance. Et puis évidemment, une fois qu'on en parle, comment on en parle et quels sont les mots. Certains mots d'ailleurs depuis ce matin ont été évoqués, mais donc certains termes extrêmement, extrêmement pervers qui viennent un peu polluer la réflexion et justement endormir les consciences sur, qui empêchent de penser la réalité et la gravité de ces événements. Alors la question d'abord de quoi on parle, qui implique immédiatement une exclusion, parce que choisir de parler d'une chose, c'est donc exclure tout ce dont on ne va pas parler. Hein. Quand on choisit un thème, c'est qu'on considère qu'il a son importance. Et donc ça pose la question pour ce qui est des politiques et de leurs priorités politiques, pour ce qui est des médias, de leur manière de hiérarchiser l'information, de qu'est-ce qui fait la une, encore une fois, que je disais tout à l'heure, et qu'est-ce qui est relégué dans la page fait divers. Et d'une certaine manière, là je reprendrai une formule que j'avais entendue d'un philosophe, Gilles Deleuze, qui définissait le consensus comme justement, de manière négative, en disant le consensus, si on regarde bien, c'est l'accord tacite dans un groupe pour que certaines questions ne soient pas posées. Et il me semble que ça correspond assez bien à ce qui nous réunit aujourd'hui. Et notamment donc, pour ce qui est à la fois dans le monde politique et dans le monde médiatique, qui, comme vous le savez, sont assez largement intriqués, en tout cas au sommet. Alors le constat général, c'est donc un mur de silence, je le disais, même s'il y a des brèches de merci et qu'il y a des gens qui, et c'est utile, et ça sert, et ça paye, travaillent à les élargir. Alors, quelques éléments là-dessus, hein, c'est du rappel, c'est des choses connues, mais la question justement de la place que prend, hein, la question, je disais, purement quantitative du bruit médiatique. Hein, vous savez qu'il y a même des gens qui font ce travail quantitatif, qui mesurent le bruit médiatique, qui comptent le nombre de dépêches AFP, le nombre d'articles de presse, le temps de télévision et le temps de radio qui a été consacré à tel ou tel événement. Et évidemment, ça façonne les subjectivités, ça façonne nos consciences sur ce qu'on prend l'habitude de considérer comme grave ou pas grave, important ou pas important. Pour le dire concrètement, à force d'entendre, à force de voir quand un policier est tué, sa photo automatiquement en une, ou en tout cas fréquemment en une de France Soir ou d'un certain nombre de journaux, et la nouvelle en ouverture du journal télévisé, et... avec tout ce qui va avec, évidemment, visite sur place du président et j'en passe, et de voir également relégué à la fin du journal, en bref, en fait divers, sans parfois qu'il y ait la photo, sans qu'il y ait... Alors, évidemment, je précise, il y a des contre-exemples, il y a des lunas, donc il faut, pour qu'il y ait la photo en une, et qu'il y ait des prénoms et des noms, et qu'il y ait un commencement d'existence dans l'imaginaire collectif, dans la subjectivité française dominante du téléspectateur, pour qu'ils existent, pour qu'ils commencent à exister, ben il faut pas mal de voitures brûlent, mais sinon ça n'a pas l'automaticité que ça a quand c'est un policier qui est, par exemple, qui est tué dans l'exercice de ses fonctions. Et donc ça, je disais, ça façonne les subjectivités. Donc il y a cette première question quantitative, de quoi on parle, de quoi on ne parle pas. Est-ce qu'il y a d'autres exemples là-dessus? L'affaire Mamadou Marega, justement, de novembre et décembre dernier, je vais expliquer pourquoi je dis décembre, elle est de ce point de vue-là exemplaire, puisqu'il n'a même pas eu, d'abord sur le temps et l'espace médiatique que ça a pris, mais également sur le fait qu'il n'a pas eu d'identité, il n'a pas eu de nom, c'était un Malien, un sans-papier, donc il y a une déshumanisation là qui se fait, et il a fallu un certain nombre de jours, c'est par exemple ce genre de contre-travail qu'on essaye de faire sur RMSI, c'est tout de suite quand on a voulu d'abord accorder de la place à cet événement qui est considéré comme un non-événement par les médias dominants, lui donner un sens politique alors que les quelques forces politiques qui protestent ou qui demandent une commission d'enquête le traitent comme une simple bavure, accident, enfin, en minimisent la portée politique, en font une question purement technique sur le taser, alors que ça pose bien d'autres questions de fond.
Je rappelle l'historique de Palette-Père.
Oui, dans sa place de la cité tout à l'heure, c'est donc un sans-papier, au départ intervention pour une risque ou une embrouille entre voisins, et puis donc il finit dans l'ascenseur, taser et gaz.
Expulsion locative.
Voilà, c'est une affaire en plus des cons. Je ne rentrerai pas dans le détail, mais ce que nous on a relevé, avant même de connaître justement quoi que ce soit de ce qui s'était passé, c'est ce qui était frappant, c'est que c'était un malien. Voilà, la petite place que ça prenait, et le fait qu'il n'avait aucune identité, et que donc partant à la recherche de son identité, parce que c'était aussi une des choses qui nous paraissait importante, de commencer par lui redonner une humanité, un visage, une existence humaine, il se trouve que c'est dans la presse malienne qu'on a fini par trouver l'information, et qu'elle a fini par arriver sur les sites militants et les collectifs Vérité Justice qui évidemment eux mettent en avant et font ce travail aussi de mettre un nom, une photo, une vie, rappeler que c'est une vie qui a été supprimée. Mais il se trouve que voilà, je parlais de décembre, c'est que 20 jours après, quand de nouveau il y a eu quelques brèves dans Libération, dans Le Monde, etc., qui sont sortis dans les journaux sur l'AFP parce qu'une instruction était ouverte, on parlait toujours du malien, il n'avait toujours pas de nom. Alors que il suffisait d'aller surfer sur internet 3-4 minutes pour trouver immédiatement cette fois-ci son nom. Donc cette question-là, donc il y a cette question du nom qui pose la question de ce que vaut une vie. Hein, une des formules qu'on a sur le site justement utilisé pour résumer ce premier enjeu, c'est une vie égale une vie, et que l'ordre symbolique qu'on nous construit, hein, les représentations qu'on nous construit avec ces questions quantitatives, cette hiérarchisation de l'information, c'est qu'évidemment une vie ne vaut pas une vie. Et qu'une vie de policier, j'y reviendrai tout à l'heure, vaut plus qu'une vie ordinaire. Ou non, je vais le dire tout de suite, parce que si je ne le dirai pas tout à l'heure, de toute façon, j'aurai pas le temps de finir. Alors, ce qui me fait dire ça, c'est que c'est construit socialement. On nous habitue à penser qu'une vie de policier vaut plus qu'une vie ordinaire. Je fais allusion au fait que dès qu'il y a un débat à droite de la droite sur le rétablissement de la peine de mort, c'est pour les pires crimes. Alors, on met pédophilie, fait sa liste, mais il y a souvent, et ceux qui ont tué un policier. Et pourquoi tuer un policier serait plus grave que tuer un boulanger, ou un professeur, ou qui que ce soit. Deuxième exemple, et là c'est plus que des ultras qui font des propositions de loi sans suite, même si ça risque d'être censuré, en tout cas Sarkozy l'a annoncé, c'est la déchéance de nationalité, hein, ce qui est sorti cet été, ben, c'était pour ceux qui ont tué un policier. Donc il y a certaines vies qui valent plus, et il y a certaines vies qui valent moins. Je sais que Mognis a fait un autre film que celui qu'on a vu ce matin qui s'appelait « Que vaut la vie de Youssef ?» qui posait cette question-là. C'est-à-dire on peut se poser la question « Que vaut cette vie ?» et qu'il y a plusieurs instruments de mesure sur ce que, encore une fois, dans les représentations qui s'imposent dans une société, le prix qu'on a qu'une société, et en tout cas que ces classes dirigeantes accordent à une vie. Alors il y a d'abord, ça peut se mesurer à la peine que prend son assassin, justement, mais ça peut se mesurer aussi au temps et à la place que lui consacrent les médias. Deuxièmement, toujours sur la question quantitative, de quoi on parle et de quoi on ne parle pas, donc il y a déjà le fait que la personne elle-même est niée et déshumanisée, et là encore une fois sur le contre-travail, c'est évidemment une des premières choses et les plus précieuses que font les comités, justement, c'est de redonner cette dignité, cette existence qui est niée une première fois parce que la personne a été tuée, mais qui est finalement tuée socialement ou tuée symboliquement une deuxième fois par l'espèce d'indifférence et de silence qui s'abat sur l'événement. Et puis, il y a également le fait de nier la question politique qui est posée, qu'il y a derrière cette mort. Et là aussi, alors là, je citerai Bourdieu qui dit que parler, justement, que le discours fait exister, hein, au sens où, évidemment, alors là aussi, je pourrais citer l'état d'enquête, c'est le bruit médiatique façonne aussi la perception qu'on a de ce qui est problématique et de ce qui ne l'est pas. C'est-à-dire qu'à force d'entendre parler d'un problème de l'immigration, il devient à peu près, ça devient une espèce d'évidence comme ça pour quiconque n'a pas été amené par sa vie et ses expériences à interroger ça devient une espèce d'évidence que oui, l'immigration en elle-même poserait un problème. Donc, on le voit en positif de cette manière-là, c'est-à-dire à force de matraquer une certaine quantité de discours, de paroles, fait exister, finit par faire exister un problème, le problème de l'immigration, le problème de l'insécurité, le problème du voile. Donc, ce qui, moi, donc, à la fois, ça c'est dans le premier sens, des non-problèmes peuvent devenir des problèmes à force d'en parler, et réciproquement, de vrais problèmes peuvent devenir des non-problèmes à force d'en pas parler. Là-dessus, peut-être une enquête que je cite souvent qui illustre bien ça, c'est qu'en 2002, un sondage sur l'insécurité, on demandait, non pas sur l'insécurité, on demandait aux sondés de hiérarchiser ce qui leur semblait les problèmes les plus préoccupants du moment. Il y avait l'insécurité dans les banlieues, et puis il y avait 10 autres propositions, dont santé, retraite, éducation et d'autres que j'ai oubliées. Et évidemment, après tout le matraquage, hein, je ne sais pas si vous vous souvenez de cette période-là de 2002, mais enfin, donc, après le matraquage intensif qu'on avait eu, sans grande surprise, en tout cas de ma part, avec 80% des réponses, ce qui arrivait en premier, comme le problème élu le plus préoccupant, enfin le plus de gens, le plus de sondés, était l'insécurité dans les banlieues. Et la même enquête reposait la même question, ou plutôt une question différente, mais en reposant les 10 mêmes points, en demandant, vous dans votre vie, votre santé, votre retraite, la sécurité dans votre ville et votre quartier, votre emploi, etc. Et là, l'insécurité dans ma ville et dans mon quartier était l'avant-dernier ou le dernier des soucis, le cadet des soucis, avec 20% de gens pas satisfaits et 80% de satisfaits. Donc, voilà, ça montre ça l'impact en positif, entre guillemets, hein, sur comment des non-problèmes peuvent devenir des problèmes, mais en négatif, à force de ne pas parler d'une chose, elle n'existe pas dans les consciences. La question aussi donc d'une vie policière vaut donc non seulement une vie, oui, de pauvre, de non-blancs, hein, il faut le dire, effectivement, on ne peut pas dissocier, comme disait Dorsa tout à l'heure, la question de ces violences, de ces crimes, de leur impunité, de leur traitement ou non-traitement médiatique, et de, même si ça ne résume peut-être pas tout, mais c'est quand même assez flagrant que la question du racisme entre en jeu. Et donc il y a certaines vies qui valent moins que d'autres, et il y a certaines vies dont on nous dit qu'elles valent plus que d'autres. Et donc, je citais les déclarations sur la déchéance de nationalité, etc. Un autre exemple qu'on pourrait donner qui va dans ce sens-là, c'est-à-dire sur le travail idéologique qui est fait pour nous amener pour nous habituer à penser finalement que certaines vies, notamment policières, valent plus que d'autres, c'est également qu'une vie policière ne doit pas être gâchée par la prison. On y faisait allusion tout à l'heure, les déclarations d'Hortefeux, par exemple, sur l'affaire de Bobigny, hein, qui considère comme une peine disproportionnée et trop sévère les quelques mois de prison pour des gens qui ont failli envoyer à perpète ou pour 30 ans un innocent sur la base d'un faux témoignage concerté. Et encore plus parlant, il me semble, sur pareil, cette hiérarchisation des vies, ce qui s'est passé à Villiers-le-Bel, où on a envoyé là en tôle pour 5 à 10, 12 ans, 5 jeunes, alors en plus dans des conditions, ce que j'ai pas le temps de développer, mais où en tout cas là, ce qui s'était passé, c'était qu'on avait tiré sur des policiers, aucun policier mort, mais que donc il a suffi qu'on tire sur des policiers pour que Sarkozy décrète qu'il y avait donc une intention de tuer, et qu'il déclare en plus, immédiatement, mettez les moyens que vous voulez. Ça ne doit pas rester impuni. Et au pied de la lettre, c'est ce qui s'est passé. Tous les moyens ont été bons. Il fallait des coupables, peu importe lesquels. Témoignages rémunérés sous X. Je vous passe en plus la teneur et la nature des 10 témoignages, mais on a produit des choses là-dessus sur le site. Mais voilà, ça indique. Bon, il y aurait beaucoup de choses, et ça ne résume pas le scandale de ce procès. Mais en tout cas, ça indique bien aussi que quand on tire sur des policiers, en gros, tout est permis pour envoyer n'importe qui sur n'importe quelle base, mais il faut qu'il y ait 10, 15 ans de prison pour peu importe qui. Voilà. La question ensuite de comment on en parle, quel mode, le travail minimal à faire d'abord sur les propos les plus scandaleux, mais ils ne sont pas si rares que ça. Elisabeth Lévy cet été, à l'occasion de la mort de Karim Boudouda, on est en guerre, et franchement, je vous le dis, s'il y en a un qui meurt, je ne verserai pas une larme. Donc après, on fait un travail. Il y a un travail à faire sur des propos moins entre guillemets extrêmes et moins rares, mais et même très fréquents et très quotidiens. Alors évidemment, bavure, hein, le mot bavure qui permet de ne pas dire que c'est un meurtre, un homicide, et qui tend aussi à faire passer en contrebande une certaine une interprétation qui est que ce serait un accident, la faute à pas de chance, qu'il n'y a aucune rationalité politique. Que ce sont des purs accidents, alors que là aussi, peut-être qu'on y reviendra dans la discussion, peut-être que Mathieu, dans son intervention, y reviendra, mais évidemment, même si c'est rarement prémédité la mise à mort par un individu qui voulait en tuer un autre, en revanche, on peut dire que c'est consenti, qu'il y a une telle répétition des cas et des structures, qu'on peut dire par contre qu'il y a un consentement de l'institution à une certaine marge, une certaine quantité de. Ça fait partie des choses qui ne sont pas du pur accident. Autre euphémisme, évidemment, l'intervention musclée. Hein. Donc évidemment, quand on commence à appeler intervention musclée un tabassage, il ne faut pas s'étonner ensuite qu'un homicide ne soit pas traité comme un homicide. Parmi les mots, on en parlait tout à l'heure, en même temps qu'on euphémise la violence, on diabolise la victime, donc t'en parlais tout à l'heure. Donc effectivement, force, donc soit parce qu'il était soit sur son attitude, soit on ment sur son attitude au moment des faits, c'est donc l'usage très extensif de la légitime défense. Je me souviens que sur le procès Liblot, sur l'acquittement Liblot, une balle dans la nuque à 20 mètres selon l'expertise, ou plus de 20 mètres, on parlait de, je ne sais plus si c'était l'avocat général, mais en tout cas il avait été prononcé la belle forme, entre guillemets, la formule, certes pas légitime défense, mais légitime défense dans l'esprit. Donc voilà, cette légitime défense dans l'esprit, la victime, on va mentir au besoin sur le fait qu'elle était effectivement complètement, tous les adjectifs dits tout à l'heure, notamment le terme de forcené qui a été réutilisé sur Mamadou Marega récemment. Soit, au-delà de son attitude présumée au moment des faits, bien connu, le fameux bien connu des services de police, qui pose effectivement, qui oblige, qui crée cette violence supplémentaire qu'on peut. On n'a même pas le temps de réaliser la mort, qu'on doit déjà commencer à défendre sa mémoire, et qu'en plus de ça, politiquement, pendant qu'on défend sa mémoire, on ne pose même pas une autre question qui est la question de fond des missions de la police, qui est, quand bien même il aurait fait ce qu'on lui reproche de faire, ça correspond rarement, par exemple, il était un Ziad Ebouna, il s'apprêtait à faire un cambriolage. Donc voilà, après, évidemment, on démontre que c'est faux. Mais quand bien même ça aurait été vrai, ou Youssef Khalif, une voiture volée, sa mère le disait dans le film, quand bien même les faits par lesquels on s'allie, à la limite, le pire dans ce type de propos, quand les faits sont faux, c'est pas le mensonge, c'est le fait que ce soit considéré comme quelque chose qui possiblement peut justifier l'usage d'une arme et la mise en danger et l'exposition à la mort et la mise à mort en l'occurrence d'un jeune, c'est-à-dire le fait que la légitime défense ne soit pas pensée comme strictement une légitime défense. On débattait ce matin de la formule de la LDH, violence policière illégitime, et est-ce que ça voudrait dire qu'il y en a des légitimes? Mais on pourrait dire oui, la violence qu'on exerce quand on est strictement en position réelle, c'est-à-dire ce qui n'est jamais le cas dans toutes les affaires dont on parle, de légitime défense. C'est-à-dire quand on doit sauver sa peau ou la peau de quelqu'un d'autre, on peut être amené à, de manière proportionnée et très encadrée, mais à effectivement exercer une violence. Le simple fait d'empêcher un mari de taper sa femme, on exerce sur lui une violence, puisqu'il n'a pas envie qu'on l'arrête, il n'a pas envie qu'on lui tienne le bras, et c'est ça qu'on peut appeler la seule violence policière légitime. Or, la question de la manière dont on diabolise les victimes de ces crimes policiers évacue complètement cette question-là, les missions de la police, et le fait, la question de fond qu'on pourrait résumer comme ça, et qu'aucun responsable politique n'a jamais, c'est ça le fameux consensus qui consiste à s'accorder pour ne pas poser une question, c'est la question quand est-ce que clairement dans les écoles de police, on va dire aux policiers que la règle fondamentale, c'est de laisser fuir quelqu'un plutôt que de neutraliser, pour reprendre les jolis mots de Brice Hortefeux, que ce soit par un taser, une arme à feu, un flashball ou une clé d'étranglement, ou quelque autre moyen qui met sa vie en danger. Un autre moyen aussi, c'est la course-poursuite. Hein, l'affaire de Adamari Berichi, c'était, voilà, il conduisait sans casque. Ah, et là, on était dans l'absurde même, où le délit, c'est qu'il conduit sans casque. On oublie même l'esprit de la loi. Pourquoi est-ce que c'est un délit? Pourquoi est-ce qu'on l'interdit? Parce qu'on se met sa vie en danger. Qu'est-ce qu'on fait du coup? Comme il ne s'arrête pas, on le poursuit de plus en plus vite. Non, je n'ai pas besoin de faire de commentaires, je pense. Il y a une dernière question qui est la question de si à qui on donne la parole, qui a plus la parole que les autres, la version policière, la parole des familles, la parole des avocats. Peut-être ça viendra dans la discussion.
le petit Nicolas est entré au CP. On l'a tous montré du doigt, on a tous manifesté. C'est à cause de son nom, quelle idée de s'appeler police. On lui pose plein de questions, on l'appelle l'agent de service. On lui demande en rigolant si ses parents voient des brigands, des cow-boys, des trafiquants, des roumains ou le président. Nicolas dit en pleurant que papa est immigrant. Fallait pas s'appeler comme ça, car toute l'école crie de joie. Nicolas qui, Nicolas Police, Nicolas qui, Nicolas Police, Nicolas qui, Nicolas Police, Nicolas qui, Nicolas Police. Les jours, on lui chante sa chanson. En marchant côte à côte, on rigole de son nom. Nicolas a des copains, en classe sont ses deux voisins. Il copie sur Jean-Marie et Dominique copie sur lui. Pour les billes à la récré, c'est avec Édouard qu'il jouait. Comme il a loupé le calot, alors il joue avec Jaco. On l'enterre à la mi-temps, au foot et au vélo, il est lent. Ses oreilles prennent le vent et c'est l'émeute quand il est devant. Nicolas qui, Nicolas Police, Nicolas qui, Nicolas Police, Nicolas qui, Nicolas Police, Nicolas qui, Nicolas Police. Nicolas est bien gentil, à la maison il sourit. Garde ses nattes devant mamie, fait ses devoirs, mange, va au lit. Avant de dormir, il lit les batailles d'à l'intérieur. Il aimerait jouer pour mamie de l'accordéon dans le téléviseur. Il fait de beaux dessins, de Villepin et pommes de pain. Frivolait sa petite amie, il en jacte. Puis dit ben vous aussi, de l'école il veut s'enfuir. Son nom lui pourrit l'avenir. Petit Nicolas rêve, son nom est sur toutes les lèvres. Nicolas qui, Nicolas Police, 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 Nicolas qui, Nicolas Police.
Forêt reclus à l'Élysée, dans le monde entier, sur internet. www.radiopérille203.com. Et sur l'audioblog, où vous pouvez écouter, télécharger et diffuser les émissions. audioblog.arteradio.com/forêt reclus à l'Élysée. Tout attaché et sans accent.
Violence policière, dérive judiciaire. Après l'intervention de Pierre Thévagnan en Merta dans la police, on va écouter deux autres interventions lors de la rencontre de Nice le 5 février. C'est d'abord un petit bilan, entre guillemets, de quelques meurtres policiers des années récentes, faits par Dorsaf, complétés par Walid du comité Vérité et Justice pour Hakim Hajimi. Et ça sera suivi du témoignage de Fatima Derni sur son combat judiciaire suite à la mort de son frère Zamani à la maison d'arrêt de Nantes le 8 février 2000. Bonne écoute.
Bonjour, donc Dorsaf du comité de soutien à la justice pour Hakim. Juste avant de commencer, je voudrais juste revenir sur ce qu'a dit Ilhan au sujet du fait que les médias, tout de suite après le décès d'un jeune qui a été tué par la police, cassent le jeune. Quand je dis casse, c'est-à-dire que tout de suite on trouve une raison aux policiers d'avoir abattu, d'avoir tué, ou peu importe la façon dont il a perdu la vie. C'est-à-dire que les familles, moi j'ai rencontré plusieurs familles, dont les familles dont je vais vous citer les noms, qui nous disent, avant même de réaliser que notre enfant, que notre proche est mort, qu'il a été tué, peu importe comment qu'il est mort, on doit essayer de rattraper sa réputation, de casser en fait les propos qui souillent notre enfant, notre frère, notre neveu, notre cousin. C'est-à-dire que tout de suite, avant même qu'on donne la parole aux policiers, les médias descendent de jeunes. Souvent, et dans 90% des cas, en tout cas ici, et que l'on voit tous les jours à la télé, tout est faux. Les jeunes ne sont pas connus de service de police. Et jamais, dans tous les cas que je vais donner maintenant, jamais un jeune n'a été armé. Et c'est le cas aussi dans 95% des affaires où on parle de bavure policière. Donc tout de suite là, je commence par Abou Bakari Tandja, mort en janvier 2005, des suites de blessures et de coups subis lorsqu'il était en garde à vue. J'ai rencontré la famille à la conférence de presse donnée par Amnesty et l'avocate. Alors la police là-dessus nous dit il a des blessures à la tête, au niveau des épaules, du dos, dans le thorax. Il s'est fait tout seul pendant qu'il était en garde à vue. C'est un fou, sauf que personne n'a détecté ses problèmes mentaux à part ses policiers, super compétents. Et le truc, c'est qu'il y avait une caméra qui est censée filmer tout le long de la garde à vue 24h/24. Et ben, c'était la seule cellule où il y avait un problème technique ce jour-là, et donc il n'y a pas de film. Je passe à M. Ali Ziri, un Algérien de 69 ans mort après son interpellation le 9 juin à Argenteuil. 27 hématomes sur une longueur de 17 cm sur le corps, asphyxie pulmonaire, c'est la raison de sa mort. Le 15 juin 2009, Juan Pablo Gutiérrez a été agressé. Alors, ça, c'est une histoire un peu loquace. Il a été agressé par un groupe de 8 personnes devant son domicile. Il a appelé la police, qui a interpellé l'un des agresseurs et a emmené la victime au commissariat de la Goutte d'Or pour un dépôt de plainte. Pour l'instant, tout est normal. Et là, tout s'est précipité. Dénudé, insulté, secoué, il a été frappé avec un tel acharnement qu'il a perdu 40% de l'ouïe à l'oreille gauche. Explication, était énervé, il s'en est pris aux policiers. Seul témoin, les policiers. Dans la nuit du 29 au 30 novembre, là, 2010, à Colombes, Mahamadou, dont on a parlé tout à l'heure, Marega, a été poursuivi, électrocuté par deux décharges de type taser, matraqué et asphyxié par du gaz lacrymogène. D'après les témoins, tous disent la même chose. Marega a été traînée vive à l'intérieur de l'ascenseur de l'immeuble par les policiers. Mahamadou est mort dans cet ascenseur alors qu'il avait les pieds et les mains liés. Là, on retrouve un peu de la situation de Hakim. Mardi 8 janvier 2008, Reda Semoudji, 31 ans, mourait défenestré du 9e étage de son domicile pendant une perquisition de son appartement. Selon la police, Reda menotté à l'arrière, aurait frappé l'un des trois policiers présents dans l'appartement avant de courir à la fenêtre et de sauter. Cette version est contestée par la famille et des témoins. Mais la justice n'entend, bien sûr, comme notre affaire, que la police. C'est pas un gag, c'est vrai tout ce que je vous raconte. Ça peut paraître complètement mytho, pas possible, mais c'est vrai et c'est en France. Le 28 novembre 2008, c'est l'histoire de Naguib Toubache, dont j'ai rencontré sa famille. Et il a été tué par la balle d'un gendarme et abandonné plus tard par ses copains d'infortune à la caserne des pompiers de la ville de Montaterre dans l'Oise. Aujourd'hui, c'est toujours seulement ce qu'ils savent, eux. Enfin, ils n'ont aucune nouvelle de l'affaire. Rien. Malgré les forums qu'ils ont organisés, les marches, les appels médiatiques, rien n'a été fait. On ne sait pas pourquoi. Bien sûr, on n'était pas armés. C'est le cas pour tout ça. Lamine Dieng. J'ai rencontré sa sœur. C'est un jeune Français de 25 ans qui est décédé le 17 juin 2007 au matin à Paris 20e entre les mains de la police. Sa famille n'a été informée que 48 heures plus tard. Pareil, ils sont toujours au point zéro. Ils n'ont aucune information, je le confirme. L'histoire de Lamine, donc il est mort d'asphyxie mécanique, comme Hakim. Donc c'est la compression du thorax, les pieds et les mains liés. On sait juste que c'était dans un camion de fourgonnette de police que ça s'est passé, qu'il est mort à l'intérieur. Où exactement, c'est la rue approximative. Qui étaient ces policiers, on ne sait pas. Quelle brigade, enfin, le numéro de brigade, on ne sait pas. On ne sait toujours rien, sauf que la mine était surexcitée. Ces policiers intervenaient suite à un coup de téléphone de l'hôtel à côté de l'endroit où était la mine pour une dispute conjugale, apparemment une dispute de couple. Donc la mine, ils sont pas venus pour lui. Et quand ils sont arrivés, ils ont dit qu'il avait un comportement surexcité, il était pris par une crise de démence. Pourquoi ? Alors ils étaient 8 policiers, je crois, à le maintenir parce qu'il avait une force herculienne. Et on en conclut par une première autopsie, par les policiers, qu'il est mort d'un arrêt cardiaque, tout simplement, à 25 ans, c'est très fréquent en effet. Et une autopsie a été pratiquée et non, il est mort d'asphyxie mécanique, sans compter tous les hématomes, tous les bleus, les coups qu'il a reçus. 19 mars 2009, Joël participait à une manifestation. Alors qu'il était dans le cortège étudiant, il a reçu une balle de flashball en plein dans l'œil. Le CRS qui a tiré était à 10 mètres de Johan. Conséquence, rétine décollée, hématome interne et le plancher hôpital fracturé. Aujourd'hui, il a perdu l'usage de son œil gauche. À Grenoble, une jeune fille, et ça c'est, on voit la vidéo sur YouTube, une jeune fille a été grièvement blessée à l'œil par la police en mai 2007 en marge d'une manifestation. Elle n'y participait même pas. Mis en examen pour blessure involontaire ayant causé une TT supérieure à 3 mois. Nous n'avons toujours pas de nouvelles de suite à ce dossier. La jeune fille non plus. Maintenant, je reviens à une affaire qui me fait un petit peu penser, en ce qui concerne, je me dis qu'on voit pour l'instant, à celle de Zamani. C'est Youssef Khalif, 23 ans, mort d'une balle dans la nuque. Alors, ça s'est passé, il y a eu un accident de la route, en fait, d'une jeune policière. Elle a perdu la vie dans cet accident, alors qu'elle était dans ses fonctions. Et Youssef Khalif n'avait rien à voir là-dedans, absolument rien à voir là-dedans. Et son compagnon, donc son collègue à cette jeune policière, le policier Iblot, a tiré cette balle à Youssef le 9 juin 81. Le 28 septembre 2001, la cour d'assises de Versailles a acquitté l'assassin. Et dans les journaux le lendemain, il y avait marqué le coupable acquitté. Le coupable acquitté. Là, je vais vous parler de Albertine Sault, que j'ai rencontrée aussi lors de la conférence de presse à Amnesty. Alors, c'était le 17 août 2008. Elle est enceinte de 6 mois, elle est chez elle et elle entend du bruit, du grabuge. Elle regarde par la fenêtre et c'était des policiers qui se disputaient apparemment avec des jeunes de temps monté. Elle retourne dans son immeuble, elle attend la visite de son cousin. Et là, elle entend son cousin crier. Elle retourne à la fenêtre et elle voit les policiers s'en prendre à son cousin violemment, le tabac, passer à tabac. Elle descend en disant « Mais qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui se passe ?» Elle reçoit un coup de poing en pleine face. Ils lui ont cassé plusieurs dents et fracturé le nez. Elle tombe dans les pommes, elle perd connaissance, quelqu'un vient s'interposer, la personne prend aussi un coup de poing et continue alors que cette dame est enceinte à la taper. Elle lui envoie des coups de pied, des coups de poing dans le ventre. Elle a accouché quelques semaines plus tard, prématurément. C'était son 4e enfant, elle n'a jamais eu de problème dans ses grossesses et jusque-là aussi elle a eu de problème. Les certificats médicaux sont venus à la conclusion que c'était ses coups qui avaient entraîné cet accouchement précoce. C'est pas fini parce qu'elle a porté plainte et elle a été condamnée à un mois de sursis et 15 000 euros dommages et intérêts alors que le procureur a demandé la relaxe. Donc ça aussi c'est dommage. Il y a encore beaucoup de victimes, je ne peux pas toutes les citer. Mais je vais quand même revenir juste sur Malik Ousseki. 6 décembre 1986, Malik sort de son club de jazz. Il y avait une manifestation d'étudiants qui était assez pacifique. Et en sortant, il se fait charger par le bataillon des voltiges. Je crois, mais ils ont été dissous depuis. Il avait 22 ans. Et quand il se fait charger par cette brigade, il court donc derrière, il voit un homme en fait qui rentre dans un immeuble, un jeune homme, un conseiller financier, un fonctionnaire des finances. Il court derrière lui, le jeune homme voit ce qui se passe, ouvre la porte, la referme derrière Malik. Cette brigade défonce la porte et passe à tabac Malik. Ce qui est grave, c'est que après, le ministre délégué chargé de la sécurité de l'époque, il déclare dans Le Monde, si j'avais un fils sous dialyse, je l'empêcherais de faire le con. Ce n'était pas le héros des étudiants français qu'on a dit. La seule conséquence, c'est que ce fameux bataillon a été dissous. Seule conséquence. Aujourd'hui, sa famille se bat encore. Donc, des exemples, j'en ai encore plein. Mais on ne peut pas tous les citer, c'est malheureux, il y en a beaucoup trop. Je veux juste revenir sur une chose qui a été dit et qu'on nous a souvent dit au comité de soutien et à moi personnellement. Surtout, dissociez votre combat. Le racisme et les violences policières. Je suis désolée de le dire, mais ça va ensemble. Il suffit juste de regarder les chiffres. Il suffit juste de regarder les chiffres. Les personnes qui sont victimes de bavures policières, et tout ça, ce sont des gens, on appelle ça la minorité visible, ça, minorité visible. C'est tout le temps comme ça. À un moment donné, il faut se poser la question, c'est quoi le problème? Est-ce qu'ils ne sont pas compétents? Est-ce qu'ils n'ont pas eu la bonne formation? Est-ce qu'il y a un problème de leur mentalité? Est-ce qu'il y a une sorte de formation interne, une fois qu'ils sont arrivés au service de police, pour les formater de cette façon à penser comme ça? C'est des questions qu'on se pose aujourd'hui, mais vraiment avoir les réponses. Et c'est tout. Donc, juste ça, et dire que je suis désolée de tous ces cas-là, et qu'il faudrait que tous ensemble, comme a dit Yann, trouvons les solutions, et qu'il ne faut pas forcément compter sur la justice au jour d'aujourd'hui, mais compter sur les collectifs, les associations, qu'on soit unis et trouver des solutions à cela, combattre cela. Merci.
Monsieur Mohamed Boukourou, encore nom, prénom à connotation africaine, a poussé un coup de gueule dans une pharmacie, il n'était pas content, je sais pas, pour avoir ses médicaments, sa carte de sécu, j'en sais rien. Donc il a poussé un coup de gueule, on va appeler la police, monsieur, mais je vais attendre la police, moi je reste assis ici, qu'elle vienne la police. Donc la police vient, il reste assis, il attend que la police arrive, la police l'embarque, il le décharge mort sur le trottoir et s'en va. Donc tout ça, je veux dire, sous attestation de témoin, donc il est pris donc dans la pharmacie, il est monté donc dans le fourgon, il est tué dans le fourgon, alors bien sûr il est mort d'un arrêt cardiaque, de toute façon, on meurt tous d'un arrêt cardiaque, bien sûr, lui. Et il est déchargé sur le trottoir sans qu'ils appellent les pompiers, sans qu'ils le déchargent sur le trottoir. Alors tout ça, donc ça a été vu. Alors, ce qui est terrifiant, parce qu'il n'y a pas d'autre mot, c'est que cette famille aujourd'hui n'a aucune instruction qui est ouverte sur le dossier et n'a aucun accès à la vérité, enfin à une procédure enfin, juridique normale.
Le premier avocat, il était corrompu et il marchait avec la justice, bien sûr. Au bout de 2 ans, il y a eu un non-lieu, j'ai donc fait appel, j'ai pris un autre avocat qui, lui, m'a fait croire, il m'a été pendant 8 ans, que c'était rendu à la Cour européenne et que c'était long. Et je me suis aperçue, grâce à Karine, qui fait partie de l'association FLD, Faites la lumière en détention, qui m'a fait connaître une journaliste indépendante, et puis elle s'est renseignée auprès de la Cour européenne, et puis qui m'a annoncé la couleur en me disant, Madame Derny, il n'y a rien du tout au sujet de votre frère. Et pourtant, l'avocat m'a envoyé un courrier en précisant que c'était rendu à la Cour européenne, et puis vous inquiétez pas, Madame Derny, c'est long, et tout le train-train, quoi. Et au bout de là, ça fait 1 an et demi que j'ai su qu'il n'y avait rien du tout à la Cour européenne. Ça fait que j'ai dû retourner sur un autre avocat. Et cet avocat-là défend une affaire similaire à celle de mon frère, sauf que là, il avait le corps entre les mains. Et la première autopsie a révélé que voilà, il était mort par pendaison lui aussi, à quelques jours de sortir. Et tout compte fait, ben, il a pris des médecins à lui. Il travaille avec 4 avocats dans le même cabinet. Et il s'est aperçu qu'il avait 6 fois la dose de subutex dans le corps en injection. Marlon Goodwin, c'est un Jamaïcain. Avec les pères d'un enfant de 3 ans. Moi aussi, mon frère, bon, il nous a laissé quelque chose, c'est mon petit neveu, et c'est son duplicata, alors, comme ça, qu'il est encore plus grand. Alors, il ne fait pas 1,85 m, il en fait 1,84 m, et il n'a que 14 ans. Donc, un chat noir, comme on dit chez nous. Et il a continué, et c'est cet avocat-là qui reprend l'affaire entre les mains avec la vidéo de la Morgane à pluie. Mais. Il m'a dit que ça va être long et que voilà quoi, ça fait déjà 8 mois, mais il n'y a rien au niveau du tribunal de Nantes, parce que ça se passe à Nantes, là où il y a l'affaire de Laetitia, et puis que Sarkozy se retourne sur les magistrats et puis tout le circuit. Et bon, c'est une ville de corrompus, mais toutes les villes de France on le sait, mais moi, là c'est trop flagrant pour qu'on laisse ça comme ça. Quoi. Moi, mon corps, le corps de mon frère, c'est des sévices qu'il a subis, c'est des actes de barbarie, et c'est au mitard, donc il n'y a que... Et voilà, je suis toujours en train de mener ce combat, vidéo à l'appui, et j'attends.
L'oppression ne se cache plus, et tant mieux si on enferme, et si on exclut. Ils sont des millions à rêver de barbelés, à soutenir l'État qui assassine pour leur sécurité. La France rêve de prison, et pour nos enfants des maisons de correction et un fichage organisé tenu par les gens bien qui eux n'ont rien à cacher. Tenu par vient la cacher. L'oppression, aujourd'hui, c'est leur loi qui organise les expulsions dans le silence des médias. Nous sommes trop peu de résistants. Alors que les fascistes sont ici, le fascisme c'est maintenant. Les gens bien fichent les étrangers, ils fichent les malades, ils fichent les syndiqués, enferment les militants et affament les artistes. Aujourd'hui, un mec qui lutte pour eux, c'est un terroriste. Aujourd'hui, un mec qui lutte pour eux, c'est un terroriste. Ça fait. Aujourd'hui, c'est leur loi qui organise les expulsions dans le silence des médias. Nous sommes trop peu de résistants. Alors que les fascistes sont ici, le fascisme, c'est maintenant. Les gens bien fichent les étrangers, ils fichent les malades, ils fichent les syndiqués, enferment les militants et affament les artistes. Aujourd'hui, un mec qui lutte pour eux, c'est un terroriste. Aujourd'hui, un mec qui lutte pour eux, c'est un terroriste. Un terroriste.
Forêt reclus à l'Elysée, dans le monde entier, sur internet, www.radiopéril203.com, et sur l'audioblog, où vous pouvez écouter, télécharger et diffuser les émissions, audioblog.arteradio.com/forêt reclus à l'Elysée, tout attaché et sans accent.
Just stuck in a big machine. It doesn't always have to be like this. Politicians are just taking the piss. The piss. even know what it feels like to be free. But it doesn't always have to be like this. The system has always taken a piss. It doesn't always have to be this way. Don't you know that pigs will pay? Don't you know that pigs will pay? Don't you know that pigs will pay?